proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Grégoire Axelrod, l'auteur de L'amour ou la mort, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir Sandrine.
Alors c'est un livre que l'on n'attendait pas. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il happe le lecteur. La carrière de la vedette du musical Maurice Chevalier a été exemplaire. Il a exporté son charme de grand séducteur à l'international. Pourtant, son parcours a été entaché par des accusations de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et votre livre met un point final à ces rumeurs en dévoilant la folle histoire d'amour entre Maurice Chevalier et votre grand-mère. Alors vous me direz si c'est vraiment votre grand-mère, dont le nom de scène était Nita Raya, une juive russe qu'il sauva avec ses parents de la Shoah. Vous montrez le vrai visage de Maurice Chevalier. Lorsqu'ils se rencontrent en 1936, Maurice Chevalier est à 47 ans une immense vedette, aussi bien en France que de l'autre côté de l'Atlantique. Nita Raya, elle, n'a que 19 ans. La jeune danseuse d'origine russe éblouit néanmoins chaque soir le public par sa beauté et son énergie. Maurice Chevalier la voit sur scène et c'est le coup de foudre, un coup de foudre qui sera réciproque. Dans la France d'avant-guerre, il mène une existence folle, côtoyant les célébrités de l'époque, Edith Piaf, Tino Rossi, le jeune Yves Montand, mais aussi Joséphine Baker, Colette, le duc et la duchesse de Windsor. La déclaration de guerre de 1939 rebat les cartes. Avec Nita, Maurice Chevalier file se réfugier dans sa villa de Cannes et Nita, d'origine juive, est en danger. Maurice la rassure, il fera tout pour la protéger, elle et ses parents, mais l'étau se resserre avec l'annexion de la zone libre. Maurice et Nita se réfugient en Dordogne avec des amis. Maurice vit désormais dans la terreur qu'il soit dénoncé et grâce à ses relations, il lui procure des papiers attestant qu'elle est de religion orthodoxe. À la libération, Maurice Chevalier, accusé de collaboration et menacé d'exécution sommaire, Nita volera à son secours. Donc on a l'impression que j'ai tout dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses encore à découvrir dans ce roman qui est passionnant parce qu'on y voit défiler eh bien, des personnalités qu'on a plus ou moins oubliées. Et la première question qui s'impose, Grégoire, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ?
En fait, ma grand-mère, c'était ma meilleure amie. Et je l'ai bien connue de mes 17 à mes 28 ans, donc pendant 11 ans. Quand j'habitais Paris, j'allais la voir très régulièrement. Et c'est vrai qu'elle est très mystérieuse. Hein. Donc, elle n'aimait pas raconter sa vie, elle disait que ce n'était pas intéressant, mais c'est toujours les gens qui ne veulent pas parler qui sont les plus intéressants dans un sens. Et quand bon, j'ai appris ce qui s'est passé avec Maurice Chevalier, ce qui s'est passé aussi pour la Seconde Guerre mondiale...
Vous l'avez appris par elle ou en le découvrant en lisant des documents?
En fait, quand j'allais chez elle, je voyais des portraits de Maurice, des statues de Maurice, des tableaux de Maurice. Donc je me disais, mais qui est cette personne? Parce que dans ma famille, c'est un peu tabou. Personne ne m'avait raconté qui était Maurice Chevalier et on ne m'avait pas non plus donné tant d'informations sur ma grand-mère. Et un jour, bon, elle a commencé à me raconter qu'il a eu un Oscar d'honneur à Hollywood. Bon, c'est quand même pas n'importe quoi pour un Français. Et puis après... Petit à petit, elle me donnait des informations, elle m'a donné des articles de presse de l'époque, des photos avec Walt Disney, etc. Et là, j'ai compris qu'ils étaient dans une autre cour. Hein.
Et on voit d'ailleurs en couverture une jolie photo de Maurice Chevalier et de votre grand-mère. Donc, il faut dire que votre grand-mère s'est remariée avec votre père et que sans doute, eh bien, son premier amour était un petit peu à cacher.
Ma grand-mère a été fiancée avec Maurice Chevalier pendant 12 ans. Et après, elle s'est mariée avec Joseph Axelrod, qui est mon grand-père. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps, c'était un joueur de casino. Mais bon, ma grand-mère rêvait de se marier et Maurice était déjà marié une fois avant. Et c'est vrai qu'il voulait pas, il avait déjà donné et qu'il ne voulait pas faire un deuxième mariage.
Quand on lit ce livre, c'est tellement extraordinaire qu'on se demande si tout est vrai. Quelle est la part de roman? Quelle est la part de réalité?
Alors, il y a un tout petit peu de roman, parce que pour moi, c'est une histoire vraie à 99%. La seule chose, c'est par exemple pour leur fiançailles. Y a des discussions par exemple au Phuket et je pouvais pas connaître leurs discussions précises, donc j'invente un petit peu, mais en même temps si on fait un livre sur Louis XIV, on est obligé d'inventer un petit peu, mais tout est vrai de A à Z, tout était vérifié. Maurice a écrit ses mémoires aussi, donc ça nous a aidés. Et puis j'ai encore tous les souvenirs de ma grand-mère parce que bon, c'est une personnalité unique et quel destin, je veux dire, c'est rare que ce soit elle ou Maurice, c'est deux personnes qui viennent, qui étaient des petits artistes. Maurice, il voulait être acrobate. Elle, une petite danseuse.
Alors,
et ça devient des stars.
On va en dire un mot justement de Nita Raya, que j'ai vraiment découverte moi en vous lisant. Donc elle a une destinée prodigieuse. Son vrai nom, c'est Raïssa Belov Jerkovic. Elle naît le 15 octobre 1915 à Kishinev en Moldavie. C'est une jeune femme qui est incroyablement belle, qui arrive en France en 1926. Elle devient danseuse, meneuse de revue, chanteuse et actrice. Maurice Chevalier l'aperçoit 10 ans plus tard dans un petit rôle de Broadway, une pièce américaine dans laquelle Marianne Dietrich fait ses débuts. Et Nita Raya et Maurice Chevalier partageront leur vie, comme la scène, pendant 10 ans. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, elle soit quasiment, même totalement oubliée, Nita Raya ?
Ah, c'est vraiment triste pour moi, parce que, même pour Maurice, hein, honnêtement, je trouve qu'on oublie notre culture en France. Et c'est terrible de penser comme ça, parce qu'on n'est pas des gens sans passé. On est des gens qui avons une grande culture en France. Maurice Chevalier, c'est la culture en France et aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de respect pour Maurice qu'en France. Bon, après, ça m'attriste, mais j'ai quand même fait ce livre avec L'Archipel, qui est une grande maison. Et je ne sais pas pourquoi je suis confiant. Je sais qu'il y a des producteurs de cinéma qui sont intéressés pour l'adapter. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, ça fera un grand succès.
Alors c'est déjà un grand succès hein, pour ceux qui le lisent, et évidemment nous sommes sur la fréquence juive et il y a cet épisode qui nous interpelle tous. Après la déclaration de guerre, Maurice Chevalier remonte sur scène et finalement il est coincé par son entourage. Il va notamment chanter en Allemagne devant des prisonniers français. C'est un épisode hein, qui sera pour lui une sorte de... plus qu'une tare, hein, puisqu'après il sera même menacé de sa vie. Est-ce que vous avez des explications par rapport à tout ça ? Pourquoi il n'a pas refusé ? Est-ce que finalement il était trop loin de la politique pour se rendre compte de ce qu'il se passait ? Qui était Maurice Chevalier ?
Maurice Chevalier était une personne apolitique. C'est-à-dire que lui ne donnait jamais son avis politique. Il n'en avait pas. C'était un artiste. Il côtoyait les présidents, il côtoyait les ministres aussi. Et en fait, il y avait son neveu qui était prisonnier en Allemagne. Et lui, il avait négocié avec les nazis qu'il allait chanter dans un camp où il avait été lui-même prisonnier. Ça devait être discret, évidemment, et qu'en échange, les nazis libéraient 10 prisonniers, dont son neveu. Et en fait, ils n'ont pas libéré son neveu, ils en ont libéré 10 autres, qui venaient aussi de Belleville. Et évidemment, à l'époque, il y avait une désinformation, mais qui existe aussi maintenant. Mais sauf qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus grave, avec les Allemands qui ont publié Maurice en photo dans le camp, disant qu'il faisait une tournée en Allemagne, ce qui est complètement faux. Et puis, il faut aussi dire la vérité que Pierre Dac était humoriste à l'époque sur Radio Londres, il n'a pas vérifié les faits. Et franchement, c'est un scandale ce qu'il a fait de faire une chanson contre Maurice, parce qu'il aurait dû se faire fusiller. Il a failli se faire fusiller plusieurs fois, oui. Et ma grand-mère l'a sauvé. Mais il y avait de la désinformation à toutes les époques, mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus grave que maintenant. Et franchement, quand tu es humoriste, tu dois au minimum vérifier les faits quand tu accuses quelqu'un de collaboration, surtout sur Radio Londres à l'époque.
Et Pierre Dac a fait marche arrière par la suite. Mais le mal était fait, puisque les Français qui écoutaient la radio des résistants à Londres ont entendu ces messages et ont accusé d'emblée Maurice Chevalier sans avoir de preuves.
Ouais, c'est terrible pour moi, c'est envoyer quelqu'un à la mort. Donc c'est inexcusable. Après, même Maurice et Pierre Dac se sont revus à Toulouse après la guerre, mais il y a des choses comme ça ça a fait le buzz à l'époque, mais voilà, le minimum c'est de vérifier les informations avant d'accuser quelqu'un. Et c'est vrai que Maurice, c'était quelqu'un de sensible et il a vraiment très mal vécu, en plus d'être proche de se faire fusiller, toute sa vie on lui en parle, alors qu'il a été là-bas pour libérer des prisonniers français. Il a pas été payé, il a pas fait une tournée en Allemagne, donc c'était compliqué à gérer pour lui. Je pense que toute sa vie, ça a été un poids dans sa vie. Et c'est terrible parce que c'est une bonne personne, Maurice. D'ailleurs, il a sauvé ma grand-mère.
Alors justement, parce que la réalité, c'est que pendant l'occupation, Nita Raya tombe sous le coup des lois anti-juives. Hein. Elle est juive. Maurice Chevalier la cache dans sa villa La Louque, à la Boca, près de Cannes, jusqu'à la réquisition des lieux par l'invasion française. Nita se réfugie ensuite en Dordogne, dans la propriété des danseurs Décha Deltaï et son mari Jean Miriot, des amis hein, de Maurice Chevalier. Et lorsque l'armée allemande envahit la zone libre le 11 novembre 1942, Chevalier fait venir les parents de Nita Raya et leur fournit de faux papiers. Grâce à un faux certificat rédigé en roumain, Nita Raya échappera à la déportation et le document reconnu authentique établissait qu'elle et sa mère Anna n'étaient pas juives, mais catholiques orthodoxes. Et en fait, vous expliquez tout ce qu'on ne sait pas. C'est que Maurice Chevalier a fait tout ce qu'il a pu pour sauver non seulement son amour, mais aussi la famille de son amour.
Mais c'est ce qui est horrible, c'est-à-dire que On te dénonce comme collabo, alors que chez toi, tu as des juifs que tu sauves. Et tu peux pas dire la vérité. Tu vas pas dire non, je suis pas collabo parce que j'ai Netanyahu qui est juif chez moi. Et ses parents, parce qu'il s'occupait de ses parents. Et heureusement, il avait des amis à la préfecture qui l'ont aidé à avoir ses faux papiers. En fait, qui disaient qu'elle était orthodoxe, alors qu'elle était juive. Mais imaginez pour Maurice, comme c'est difficile quand on cache des juifs chez soi, d'entendre tous les jours qu'on a un collabo. Et c'était compliqué aussi de refuser les demandes nazies. Parce que vous savez, quand on est dans un pays occupé, on refuse, oui, Maurice disait, j'ai mal à la gorge, je suis malade, je peux pas. Mais au bout d'un moment, si tu refuses trop, les nazis s'énervent et c'est pas la même histoire. Donc c'est courageux ce qu'il a fait, d'une part, de sauver ma grand-mère et ses parents, et d'autre part, de refuser les spectacles, de refuser de chanter, parce qu'il avait une pression monumentale. Maurice, c'était une légende.
Alors justement, vous expliquez un épisode que Netanyahu est convoqué à plusieurs reprises, et on ne sait pas si c'est parce qu'on traque sa judéité, ou si c'est pour faire pression sur Maurice Chevalier pour qu'il remonte sur scène.
Après, les nazis voulaient aussi que Maurice aille à Paris, soit visible. Bon, parce que c'était quelqu'un d'important à l'époque comme artiste. Mais ils savaient, bon, ils avaient un petit doute sur ma grand-mère, vu qu'il y avait une enquête. C'était clair qu'ils avaient un œil sur elle. Hein. Donc, en fait, ils sont partis en Dordogne. Et c'est vrai que Maurice, il avait une qualité, c'est qu'il marchait plusieurs heures par jour pour tout oublier. Parce que, là, bon, je fais la même chose que lui. Hein. Mais la pression qu'il a, entre d'un côté les nazis qui l'obligent à repartir à Paris, d'autre côté ma grand-mère qui peut dénoncer, parce qu'à l'époque c'était difficile. Hein. Franchement, il y a des Français qui se sont mal comportés aussi, hein,
oui.
Qui étaient des gros collabos. Hein.
Oui, la délation, c'était une habitude très française.
Ouais, bah, bien sûr. Donc imaginez pour lui la complexité totale. Le pauvre, il était dans un état catastrophique. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était toujours positif. Alors elle, il n'y avait rien qui... Elle avait peur de rien. Elle a toujours le sourire, quoi qu'il se passe dans la vie. Donc elle lui donnait un peu sa bonne énergie. Mais à la Boca, la chance qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une grande maison avec un grand jardin. Même si à l'époque, ils avaient construit un potager et que les nazis avaient détruit tous les potagers qui avaient été plantés après une date, je crois que c'était 42. Et donc, ils essayaient de s'organiser. Bon, ils jouaient au tennis, ils essayaient de changer les idées, mais quelle complexité. Et ça a duré tellement longtemps, en plus.
Et donc, Maurice Chevalier sauve la vie à votre grand-mère et elle va lui sauver la vie au moment de l'épuration. C'est terrible ce que vous racontez. Est-ce que tout est vrai? Que vraiment, on était venu pour le tuer?
Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est dans les mémoires de Maurice. Je veux dire, tout a été vérifié. Hein. Même si c'est tellement énorme que ça paraît faux, mais c'est la réalité. Ça a été de la guerre. Il se passe aussi tellement de mauvaises choses et quelques belles choses. Et Maurice a en fait a été convoqué. Bon, c'était, quand ils l'ont pris, c'était carrément pour le fusiller, puisqu'il avait été condamné à mort à Alger, d'ailleurs. Et là, il a un interrogatoire avec double maître, en fait. Bon, c'était assez musclé. Il avait de la haine contre lui. Ça qu'il avait, comme les gens ne connaissaient pas la réalité, ils voulaient aussi le descendre. Honnêtement, je pense qu'ils allaient le descendre. Mais honnêtement, grâce à ma grand-mère qui a pris une voiture, qui allait à Toulouse chercher René Laporte, qui est un grand résistant... qui allait chercher après Maurice. Enfin, c'était une course contre la montre parce que franchement, peut-être à 24 heures près, il se faisait fusiller. Et quelle injustice! Quelle injustice! Quand tu casses des juifs chez toi et que tu te fais fusiller pour collaboration, c'est horrible.
Et malgré tout ça, une année après la fin de la guerre, Maurice et Netanyahu se quittent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé?
Bon, après, c'est ma grand-mère qui est partie. Après, ma grand-mère était spéciale, attention. Hein. C'est-à-dire qu'elle était quelqu'un de très libre, très indépendante. Et bon, je crois qu'elle a une petite relation avec son pianiste aussi.
Voilà.
Mais bon, vous savez, la guerre, ça détruit tout. Hein, puis ça a quand même des séquelles très fortes. Et c'est dommage parce que leur relation était partie sur des chapeaux de roue. Quand Maurice allait voir ma grand-mère a dit qu'elle n'était pas disponible pour le dîner. Alors que, bon, elle était un peu folle parce que c'était quand même Maurice Chevalier. Mais ma grand-mère, elle a toujours été comme ça. Elle a toujours suivi son instinct. Et après, ils sont restés amis, hein. Ils se sont revus toute leur vie. Et puis, elle a hérité de Maurice aussi. Donc, c'était une grande amitié. Mais après, je pense que Maurice, il a été aussi marqué très fort par ce qui s'est passé. Bah, quand on passe si proche d'être fusillé, franchement, ça laisse des séquelles à vie. Hein.
Et d'ailleurs, Mireille Chevalier, c'est sa nièce hein, qui a accepté de préfacer votre ouvrage, explique comment votre livre habilite une mémoire douloureuse pour la famille.
Ouais, je voulais remercier Mireille parce que c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et qui a beaucoup de respect pour Maurice et pour Nita, ma grand-mère. et qu'elle fait la préface, bon, bah, c'est un gros plus pour moi. Et c'est vrai que c'est terrible parce qu'il y a toujours, même maintenant, des rumeurs, en fait. Moi, j'entends souvent Maurice Collabo. C'est terrible. Mais je n'ai pas fait vraiment ce livre pour réhabiliter Maurice. Parce que pour moi, il n'a jamais été en faute. J'ai fait ce livre pour raconter leur histoire d'amour exceptionnelle. Et en fait, pourquoi l'amour ou la mort? C'est parce que s'il n'y avait pas eu leur histoire d'amour, Nita, elle serait décédée, elle serait morte. Et Maurice, pareil, il aurait été fusillé. Et c'est leur histoire d'amour qui a permis de se sauver l'un et l'autre.
En tout cas, c'est une jolie histoire que vous racontez. Vous êtes donc le petit-fils de Nita Raya et de Joseph Axelrod, qu'elle épouse à 34 ans en 1949. Est-ce que, après le mariage avec votre grand-père, elle reste dans le music hall?
Oui, ma grand-mère, elle a toujours été active. Parce que même quand mon père est né, elle a continué à chanter, elle est partie à l'étranger. Mais après, il faut aussi dire la vérité, quand elle accompagne de Maurice Chevalier... t'as des rôles au cinéma plus facilement, t'es plus demandé, hein, parce que Maurice, c'était tellement incroyable dans l'univers des artistes. Donc oui, elle a toujours continué, mais c'était quelqu'un de simple. Et même quand je l'ai connue, elle avait plus de 80 ans, elle était en pleine forme physique. Ma grand-mère, elle a toujours été sportive dans l'âme, et je pense qu'elle a fait une grande carrière. Après, moi, j'ai pas connu malheureusement cette époque, mais quand je vois les journaux de ces années-là... Bon, elle faisait les premières pages, pas comme Maurice, ils étaient en une de gala, Paris Match, enfin, c'était normal pour eux.
Donc, Nita et Joseph ont un fils unique qui est votre papa, c'est ça? Comment il a réagi à la lecture du livre? Est-ce qu'il était heureux que vous intéressiez à ses origines?
Alors, le problème, c'est que mes parents ont divorcé il y a 20 ans et mon père, je ne l'ai pas revu depuis le divorce. Donc là, je le revois exceptionnellement dimanche, pour la première D'accord. fois de ma vie, la première fois pour ces 20 dernières années. Donc, il savait que ma relation était très forte avec ma grand-mère. Et bon, mon père, il m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Premier livre dans le foot et celui-là sur Nita. Après, bon, on n'est pas la même personnalité. Il est un peu plus discret que moi. Et alors que moi, non. Pour moi, c'est une histoire tellement incroyable qu'elle doit sortir partout. Et je suis convaincu que ce livre, même aux États-Unis, il va cartonner. Parce que aux États-Unis, vraiment, ils ont un grand respect pour Maurice. Parce qu'ils ont une histoire aussi qui est plus courte que l'histoire française. L'histoire française, ça fait 2000 ans, alors qu'aux États-Unis, c'est un pays neuf.
Et le judaïsme dans tout ça? Est-ce que de Nita Raya, il est parvenu jusqu'à vous, sans indiscrétion aucune?
Alors, c'est vrai qu'après la guerre, ma grand-mère, elle a toujours eu peur d'aborder ce sujet, même avec moi. Et mon père a épousé une catholique.
Il faut dire que Joseph Axelrod, ça sonne avec une sonorité ashkénaze. Est-ce qu'il était d'origine juive?
Oui, il était d'origine juive.
Oui,
aussi.
De quel coin il venait?
De Russie.
Oh, d'accord, donc c'était plus facile entre eux de se comprendre aussi.
Après, je ne sais pas s'ils se parlaient russe ou français.
Oui.
Mais oui, ils venaient de la même région. Et après, c'est vrai que moi, j'ai connu ça autour de moi. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens qui ont vécu toutes ces années... horrible, de doute, où il fallait mentir sur l'origine. Franchement, ils ne voulaient absolument pas parler de leur passé. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis catholique par ma mère. Mais bon, moi, je peux pas renier mon passé. Ma grand-mère était exceptionnelle. C'était quelqu'un d'immense pour moi.
Est-ce qu'il y a des petites choses du judaïsme de vos grands-parents qui sont parvenues jusqu'à vous?
Ma grand-mère, elle m'a transmis beaucoup de valeurs aussi. Et après... Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs autour de moi qui m'entourent. Moi, après, je peux pas parler parce que c'était vraiment un sujet tabou pour elle. Et bon, je peux comprendre aussi. Mais vous savez ce que ça doit être pendant 4 ans quand on doit mentir sur ses origines? Est-ce que tu veux juste te dire non alors que tu l'es? C'est horrible. Je veux dire, et c'est pour ça que c'est important de reparler de cette époque-là parce qu'on ne sait pas ce que peut être l'avenir. Hein.
Vous parliez tout à l'heure, finalement, plutôt que de réhabiliter un personnage ou de raconter une histoire vraie, c'était de parler d'une histoire d'amour. Est-ce que c'est ça, finalement, l'objectif de l'écriture de votre livre?
Moi, je voulais raconter l'histoire exceptionnelle de ma grand-mère. Et c'est vrai que, quand je parlais avec mon éditeur, Jean-Daniel Belfond aussi, et Yves Deray, ils m'ont dit, il faut raconter cette histoire qui est incroyable. Et ça a été... j'avais en tête de raconter cette histoire depuis des années, ça c'est vrai, mais ça s'est fait par le prisme de la Seconde Guerre mondiale aussi, parce que c'est la période la plus forte de leur histoire, parce que quand ils se sont rencontrés en 1935, bon, c'était les années un peu plus cool, quoi, on va dire, facile, alors que la Seconde Guerre mondiale, ça a été vraiment une période difficile, même pas difficile, c'est... Bon, à la vie, à la mort, hein. Franchement, ils auraient pu, les deux, se faire disparaître. Hein.
Alors, il faut dire que la littérature d'origine, c'est pas votre milieu. Vous êtes dans le sport, je crois, dans le football. Et pourtant, l'écriture est très joliment ciselée. C'est bien écrit. C'est aussi agréable à lire qu'à découvrir l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez depuis toujours, écrire ?
Alors, en fait, l'écriture, ça arrivait tard pour moi. Quand j'ai écrit le premier livre sur... Bon, mais ils sont un peu folles dans le football, mon tour du monde, etc. Et après, c'est vrai qu'on prend l'habitude d'écrire. Et après, bon, ce livre, je l'ai écrit aussi avec Marjorie. Donc, on l'a écrit à deux. Et c'est vrai que c'était un... Bon, c'est plus facile en duo parce que moi, je ne suis pas le pur écrivain. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'aime écrire. Et après, c'est assez simple parce que le premier livre, c'était sur ma vie. Et le deuxième livre, c'est sur ma grand-mère qui est tout pour moi, qui est ma meilleure amie. Bon, qui est tout pour moi, il y a ma femme maintenant qui est aussi importante. Mais c'est vrai que c'était naturel pour moi de raconter cette histoire parce que je sais que ça va plaire. Et que ce livre, quand les gens le lisent, m'ont dit que c'est exceptionnel ce livre.
Alors justement, vous avez des retours, il est sorti depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'on vous en dit généralement ?
Les retours sur l'écriture ou sur l'histoire, c'est incroyable. Et après, au niveau des médias, ça met un peu plus de temps, parce qu'il y a le Festival de Cannes, etc. C'est vrai que le premier livre, j'étais très médiatisé. Et même encore, j'ai des interviews de journaux coréens, américains.
Pour votre premier livre ?
Pour mon premier, je crois que j'ai fait au moins 50
000. Vous êtes agent de footballeur, c'est ça ?
Voilà, je suis agent de joueur de foot. Et j'ai raconté, comment faire pour avoir des essais dans le monde du foot, quand on est nul au foot. C'est un petit peu un livre drôle. Et donc, ça va être adapté en documentaire. C'est une très grosse histoire. Et par rapport à Maurice...
Parce que c'est un grand écart entre les deux.
Ouais, c'est vrai, mais après, je parle de Maurice et de Nita aussi dans mon premier livre, parce que si j'ai fait le tour du monde pour devenir footballeur professionnel en faisant un faux site internet, en étant créatif, c'est parce que j'ai grandi avec Nita. Et que si ma grand-mère n'avait pas été une grande artiste et n'avait pas côtoyé quelqu'un qui a gagné un Oscar d'honneur à Hollywood, j'aurais pas été assez fou pour faire ce que j'ai fait. Donc en fait, on est liés. Et évidemment, les chiens ne font pas les chats. Donc, ce deuxième livre, pour moi, c'était un peu comme dans Star Wars, il y a trois épisodes. Ça, c'était le premier épisode. Je raconte pourquoi j'ai réussi à faire ce que j'ai fait dans le foot, parce que ma famille a des racines incroyables aussi. Et c'est vrai que je suis très confiant. Je suis très confiant pour ce livre et je pense qu'aux États-Unis, ça va être aussi un très gros succès.
Alors, le troisième épisode, c'est quoi ?
Ah, surprise ! Peut-être à la fin de ma vie... Quand j'aurai été président de la République, je pourrais écrire un troisième livre.
On vous le souhaite. Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditeurs et aux auditrices de la Fréquence Juive de lire votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je voulais raconter une histoire incroyable d'amour aussi entre Maurice, que je considère comme un résistant, parce qu'il a caché ma grand-mère qui était juive, et ses parents aussi, qui s'est quand même occupé de trois personnes... pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était quand même contacté par les nazis tout le temps. Et je voulais raconter l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale à travers une grande histoire d'amour et aussi avec des personnages d'une grande qualité. Je veux dire, mon chevalier, c'est une légende et ma grand-mère, elle a fait aussi de très belles choses dans sa vie en tant qu'artiste.
Et c'est une grande réussite et un livre à lire cet été, à la fois léger et profond, puisque la petite histoire rencontre la grande histoire. Merci beaucoup Grégoire Alselrod d'avoir parlé avec nous de votre actualité. C'est la parution de L'amour ou la mort qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel et évidemment qu'on recommande à tous nos auditeurs et nos auditrices. Bonsoir et à bientôt.
Merci beaucoup Sandrine.